France Culture.
Vous êtes de quel département ?
Oui.
Vous avez déjà votre arbre ?
Oui.
Et vous ne l'avez pas amené ?
Si, tout est en...
Ah, vous avez comme ça ? D'accord, nous on préfère beaucoup...
En papier ?
En papier. Donc on va vous donner un papier, parce que sur le papier, vous allez tout marquer. C'est-à-dire, vous marquez le nom, le prénom, l'acte de naissance, l'acte de décès, la profession, etc. Vous
allez Atelier voir. De généalogie de l'association CM98, Paris 20e.
Ah oui, vous avez déjà les papiers préparés. Et pourquoi plutôt le papier que
l'ordinateur ? C'est plus simple. Dans le sens que on s'aperçoit par exemple que sur une lignée, vous n'avez que des femmes ou que des couturières. Vous voyez, ou que des pêcheurs pour les hommes. Et c'est beaucoup plus flagrant quand on a l'arbre en papier. Donc nous, on leur, vous voyez, la dame, elle a son petit arbre généalogique.
J'ai imprimé le mien aussi.
Je raconte toujours, j'ai mon petit-fils qui a 8 ans, et j'ai toute la généalogie sur le frigidaire. Et donc, ça part de lui. Il a 8 ans. Il regarde la généalogie et il dit... Si je comprends bien, c'est moi qui vous porte tous.
Le commerce triangulaire a duré 4 siècles. 15 à 30 millions de personnes, femmes, enfants, hommes, ont subi la traite et l'esclavage. Cette violence et cette brutalité expliquent très probablement, pour une large part, le silence convergent des pouvoirs publics qui voulaient faire oublier et des descendants d'esclaves qui voulaient oublier.
Esclavage, héritage d'hier, voix d'aujourd'hui. Une série documentaire d'Aurélie Bambuc, réalisée par David Jacubo-Viez. Épisode 1, héritier de l'esclavage.
Moi, Evelyne, c'est la première fois que je te vois en vrai. Après nos visios, non, je voulais juste te montrer, sans qu'on rentre dans les détails, parce que moi, je vais repartir avec un arbre généalogique comme ça, faire mes devoirs moi aussi.
Je te conseille de partir avec deux arbres généalogiques. Un pour ta maman, un pour ton papa.
Exactement, parce que moi, j'ai tenté, à partir du site Généanet, de faire l'arbre de mon père avec ce que tu m'as aidé à trouver, à savoir qu'on remonte jusqu'à Nelson Bambuc, né en 1815.
Je suis Aurélie Bambuc, fille de Ghislaine Barnet et Roger Bambuc, deux champions d'athlétisme, une enseignante et un secrétaire d'État dans un gouvernement. Je suis petite fille d'Yvon Barnet, employé de mairie, de Roger Sulpice Bambuc, transitaire en douane. Je suis arrière-petite fille de Camille Barnet, vendeuse de fruits et légumes, d'Alexandre Bambuc, capitaine au long cours. Je suis arrière-arrière-petite-fille d'Orphel Bambuc, esclave. Je suis arrière-arrière-arrière-petite-fille de Clorinde Barnet, esclave.
Du côté de mon père, il n'y a que des esclavisés.
Je suis descendante de personnes mises en esclavage au XVIIIe siècle, en Martinique et en Guadeloupe. Mais ce passé ne m'a été révélé que tardivement. Mes parents ne se sont jamais dit descendants d'esclaves. C'était une honte à leur époque de se dire descendant de personnes privées de liberté. Je ne ressens pas cette honte, mais je ressens un manque. Il y a beaucoup de cases vides dans mon arbre généalogique. Beaucoup de silence dans cette histoire. Beaucoup d'oubli. Beaucoup de déni. Alors j'ai décidé de briser le silence, de lever le tabou en faisant ma généalogie. J'ai fait appel à l'association CM98. Elle a créé le site internet Enchoucage, ça veut dire enraciné en créole. Il répertorie tous les noms des Antillais qui étaient esclaves jusqu'à l'abolition de l'esclavage en 1848.
Donc du coup, il faudra essayer de remonter là.
C'est Evelyne qui m'a aidée dans mon enquête pour retrouver mes ancêtres. Elle et son mari, Emmanuel, militent depuis plus de 20 ans pour que ce passé ne soit pas oublié.
Je suis Evelyne Simon-Gordien, je suis donc membre de l'association depuis sa création et plus spécifiquement membre de l'atelier de généalogie. Et nous faisons de l'accompagnement pour les personnes qui viennent de sociétés post-esclavagistes pour retrouver leurs parents et souvent qui ont été esclaves. Voilà.
Vous sentez qu'il y a un besoin de généalogie particulier chez les Antillais? C'est pour ça que vous avez créé cet atelier, pour répondre vraiment à un besoin?
Ben, c'est-à-dire que la démarche, c'était mettre en avant les personnes qui ont été mises en esclavage. Hein. C'était ça notre but. Et les personnes, souvent, elles parlaient de l'esclavage de manière très vague et générale et comprenaient pas obligatoirement. Et là, pour rendre les choses plus palpables, parce qu'on ne se contente pas de mettre des noms dans des cases, on essaye de comprendre pourquoi, enfin, les mariages, les lieux, enfin, on essaye de vraiment donner vie, redonner vie à toutes ces personnes et à comprendre leur trajectoire. Enfin, ça, c'est valable pour toutes les généalogies, hein. Mais nous, il y a cette spécificité parce que il y a eu l'esclavage et qu'il y a beaucoup de choses qu'il y a que dans nos familles. C'est-à-dire que quand vous voyez les personnes sont notées mulâtresses, métisses, capresses et tout ça, libres de couleur. Enfin voilà, il y a une histoire spécifique. Donc il faut la connaître, hein, puisqu'elle dit aussi ce qu'on est aujourd'hui. Donc c'est pour ça que, enfin, on voit un intérêt déjà pour se comprendre, pour se nourrir, et puis aussi après pour. Personnellement, je trouve toujours que ça permet d'être un peu plus, comment dire, vertical.
J'ai vraiment commencé le travail d'arbre généalogique il y a peut-être 15 ans. Mais c'était plus pour travailler sur les vivants et comprendre les relations que j'avais avec une partie de ma famille qui était ici en région parisienne et qui avait migré au moment du Bumidome.
Karim, 33 ans.
Donc c'est comme ça que j'ai commencé l'arbre généalogique pour justement comprendre les liens de famille et entre les cousins qu'on me présentait que j'avais ici. Puisque moi j'ai grandi en Guadeloupe. Et je suis arrivé en région parisienne pour mes études il y a 15 ans de ça. Et ensuite, il y a 2 ans de ça, tout l'été, j'ai travaillé sur l'arbre généalogique pour justement retrouver les ancêtres. Parce que ben, dans le logiciel que j'avais utilisé, ils me disaient qu'ils avaient des correspondances avec d'autres personnes dans les archives nationales et, ou dans les archives de la Guadeloupe. Ça a piqué ma curiosité et c'est là où j'ai trouvé du coup l'acte de décès et l'acte de naissance de mon arrière-grand-mère et mon arrière-grand-père. Maternelle, et j'ai remonté comme ça jusqu'à ce que je puisse plus, et j'ai fait la même chose du coup du côté de mon père, mais je suis bloqué justement autour des années 1800, quoi.
Parce que ce qui est intéressant quand on arrive à un moment où les actes d'état civil ne nous permettent plus d'avancer, c'est essayer de voir du côté des actes notariés, mais c'est très très compliqué. Et nous, on a la chance d'avoir un membre qui s'appelle Monsieur Prudentos, et qui, c'est sa mission, depuis plusieurs années, il fait des fichiers avec des actes notariés. Et donc, j'avais proposé de regarder, par rapport à l'habitation, si on retrouvait un ancêtre.
Ça vous a fait quoi la première fois que vous avez retrouvé un ancêtre esclavisé?
En grandissant en Guadeloupe, on sait que, en plus moi étant noir, je sais que j'ai eu des ancêtres esclavisés, mais là, ça rend les choses extrêmement concrètes, puisque je vois que sur 4-5 générations, sont tous en Guadeloupe. J'ai les certificats d'affranchissement aussi de certains. Je vois aussi des actes de mariage où certains, justement, enfants sont reconnus après l'abolition de l'esclavage. Donc ça rend les choses extrêmement concrètes et palpables.
Je laisse travailler avec Evelyne.
Comme il avait déjà beaucoup avancé dans sa généalogie, donc on savait qu'il y avait quelqu'un de sa généalogie qui était sur une habitation. Et l'intérêt, c'est de voir si dans les actes notariés, il y a un acte qui correspond à cette habitation. Parce que comme là, c'est un inventaire, on note tous les biens, dont les esclaves. Ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'on a même une estimation du coût. Quand on voit le prix, c'est toujours c'est très très choquant.
Il y a beaucoup de jeunes comme monsieur qui font appel à cet atelier généalogique.
Il y a pas mal de jeunes, ce qu'il y a, beaucoup de jeunes, ils n'ont pas obligatoirement la même démarche. C'est-à-dire que comme il y a la mode de l'ADN, et l'important pour certaines personnes, c'est de savoir de quelle ethnie, enfin si on peut dire ethnie, de quel groupe humain d'Afrique qui viendrait. Alors après, bon, ça se discute. Hein, c'est bon. Personnellement, j'ai pas fait de test ADN, et pour moi, c'est pas ce qui va me dire ce que je suis vraiment et ce que ma famille a pu vivre et tout ça, parce qu'en fin de compte, s'il n'y avait pas eu l'esclavage, les sociétés qui ont été créées en Guadeloupe, Martinique et dans d'autres endroits, ils seraient avec le reste de leur famille quelque part en Afrique, et puis les Bretons, les Normands et tout ça, ils seraient chez eux. Mais du fait que l'esclavage a duré sur plus de 200 ans, il y a eu beaucoup de brassage de faits, et même si on trouve une ethnie, ce sera pas la seule qui a contribué à ce qu'on soit là aujourd'hui. Donc voilà, c'est ma réserve là-dessus. Après, je pense aussi que ce qui s'est passé en Guadeloupe, en Martinique et ailleurs est important aussi. Et on ne peut pas gommer cette partie-là parce que ça a existé et ça fait ce qu'on est aussi aujourd'hui.
Vous, par contre, vos arbres généalogiques, vous avez tout. Vos enfants, vos petits-enfants connaissent tout.
La plus grande, quand elle avait vu l'arbre, elle dit « Mais pourquoi il y a marqué esclave ?» Elle demandait ça. Et puis, l'autre fois, j'avais un sac qui avait marqué « Mémoire de l'esclavage » dessus. Et la plus petite m'a dit « C'est horrible, ça. C'est horrible. »
Elle m'a dit pareil. Elle m'a dit mais papy, c'est dur, l'histoire de l'esclavage. C'est pas beau, ça. » Elle dit « Mais écoute, c'est l'histoire. » Et on revient de cette histoire-là. On est là, malgré tout. Alors, je m'appelle Emmanuel Gordien, je devrais dire Nerville Emmanuel Gordien. Je suis le président de l'association CM98, un des membres fondateurs, nous étions 7 au départ.
Ça signifie quoi, CM98?
Alors, CM98, c'est Comité Marche du 23 mai 1998. C'était une marche silencieuse. Nous réfléchissions à ce qu'étaient que ces sociétés guadeloupéennes, martiniquaises, guyanaises. On voulait comprendre la division. On voulait comprendre les troubles de l'estime de soi. On voulait comprendre cette histoire de couleur de peau. Depuis que je suis tout petit, on me dit, toi, tu es intelligent, tu apprends bien à l'école, mais il faut que tu maries une femme blanche pour éclaircir la race. Donc, on voulait comprendre tout ça. Et nous nous sommes interrogés. Alors, on a dit, bon, nous sommes 7. Eh bien, on va faire un tour de table. Vous, qui êtes-vous? Toi, tu es qui? Comment tu te considères? J'ai dit, moi, je suis le petit-fils de Papa Blaise et de Georges Bouïc. Papa Blaise, c'est le premier esclave, le plus ancien, affranchi, il avait 51 ans, et c'est lui qui va acheter 1 hectare de terre 4 ans après l'abolition. Et c'est sur cette terre que vont naître tous ses enfants, ses petits-enfants, mon propre père, ma grand-mère, mes oncles et tantes, tous, c'est là qu'ils sont nés. Et cette terre, c'est pour lui en Guadeloupe, dans ce petit hameau qu'on appelait Montroc. Et donc, je dis ça, donc j'explique que donc lui, Papa Blaise, on l'a nommé Blaise Collin à l'abolition de l'esclavage. Et de l'autre côté, maintenant, il y a ce fameux Georges dit Bouïki. C'est ce que papa nous disait. Il était esclave, né en Afrique, et papa connaissait ses deux derniers fils, tous deux nés après l'abolition, et c'est eux qui ont raconté à papa cette histoire de l'esclavage que nous connaissions. Et donc, depuis que j'ai 4 ans, 5 ans, 6 ans, je connais toutes ces histoires. Et c'est là que, quelque part, je pense que cette histoire de Georges Bouïki et de Papa Blaise a fait que dans le petit groupe, c'était des nationalistes guadeloupéens de l'époque, c'était des étudiants qui étaient en thèse pour certains d'entre eux, des psychologues, des historiens, personne ne connaissait autour de la table ces aïeux qui avaient vécu en esclavage. Et c'est là qu'on se dit que il y a une question. Et je me souviens un peu, j'avais dit, mais Aimé Césaire, qu'on apprécie tous, qu'on apprécie encore toujours, disait « Chapitre des ancêtres imaginaires ». Eh bien, Aimé n'était pas imaginaire. Et donc, on avait donc cette habitude de réflexion. On a été au bout de la réflexion. Et donc, au même moment, M. Jospin propose qu'on commémore le 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage en 1998. Avec un mot d'ordre, tous nés en 1848. Alors, évidemment, Papa Blaise n'est pas né en 48. Georges Bouïki n'est pas né en 48. Donc, pour moi, c'était une négation de notre histoire. Et en discutant avec tous les autres amis qui étaient là, qui eux aussi avaient donné un peu leur avis sur notre histoire, certains d'entre nous étaient descendants de colons, étaient des mulâtres, des métisses. Donc tout ça nous a permis de voir un monde qu'on avait complètement ignoré. C'était ce monde de l'esclavage colonial. Et donc nous proposons pour la commémoration une marche silencieuse pour penser à nos parents qui avaient vécu le martyre de la traite négrière et de l'esclavage colonial. Pourquoi d'ailleurs on a appelé l'association Comité Marche du 23 mai 1998 ? C'est parce que ce jour-là, on attendait 1000 personnes. Et en fin de compte, nous étions 40 000. Ça veut dire que ce jour-là, c'était un Big Bang mémoriel. Quelque chose de nouveau était né. Et à tous les journalistes qui nous ont vus, ou les politiques, ou les politiciens qui nous ont dit « Mais messieurs, qu'est-ce que vous allez faire maintenant pour cette communauté ?» On a répondu très simplement « Il est urgent de ne rien faire. » Tant que nous n'aurons pas compris pourquoi 40 000 personnes défilent pour penser à des parents qu'aucun d'entre eux ne connaît. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'il y avait autant de personnes qui étaient sur le bas-côté de la route, qui n'osaient pas rentrer dans la marche elle-même, que des gens qui étaient dans la marche. 40 000 personnes, c'est quand même pas banal. Et c'est pour ça que, urgent de ne rien faire, c'est essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des gens à ce moment-là. Et y compris dans nos têtes à nous.
La marche est digne et silencieuse. Dans le cortège, quelques vedettes et puis des milliers d'anonymes.
Journal de France 3.
Martiniquais, Guadeloupéens, Guyanais, ils sont là pour dire qu'ils sont tous des enfants d'esclaves.
23 mai 1998.
Je suis venue manifester pour que tout le monde puisse se rappeler que nos ancêtres se sont battus pour nous. Pour nous libérer des anciennes chaînes qui nous liaient et pour que tout le monde s'en souvienne.
Pendant très longtemps, on ne s'est pas souvenu. Et ceci n'est pas juste. Une société, en tout cas un groupe humain, un peuple, une communauté ne peut pas vivre dignement si elle n'honore pas ses morts.
Alors plus de 300 associations se sont regroupées au sein d'un comité unitaire. Ce comité réclame une vraie reconnaissance de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité.
Cette marche du 23 mai 1998... c'est l'irruption des descendants d'esclaves dans l'histoire de l'esclavage. Donc, il est évident qu'aucun parti politique ne peut rester en dehors de ce mouvement de masse, 40 000 personnes. Eh bien, ce 23 mai 1998, il dit qu'il y a un crime contre l'humanité. Mais quand il y a un crime contre l'humanité, qui est-ce qu'il faut honorer ? D'abord et avant tout, les victimes du crime. Or, la France, qu'est-ce qu'elle honore ? Les abolitionnistes. L'État français ne reconnaît, et jusqu'à aujourd'hui, je pèse mes mots, ne reconnaît que son œuvre abolitionniste. En tout cas, c'est assez noble. Dire qu'on a fait l'esclavage colonial, c'est pas terrible. En revanche, dire qu'on a aboli et dire que voilà, on a fait des départements, bah ça, c'est beaucoup plus noble.
C'était une grande manifestation du 23 mai 1998 à Paris.
Jean-Marc Ayrault, ancien Premier ministre.
C'est une étape aussi très importante, c'est-à-dire...
président de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage.
Personne... pour la quasi-totalité d'entre eux, c'était des personnes noires, de la diaspora de nos départements d'outre-mer ou des pays africains, venus exprès pour manifester et qui vont défiler dans le silence pour demander la reconnaissance au fond de cette histoire par la France, par leur pays, par notre pays. Et qui vont demander aussi que la traite et l'esclavage soient reconnus comme un crime contre l'humanité. C'est une revendication qui est profonde, qui est puissante, et qui va faire écho à une initiative qui sera prise par la suite, mais pas tellement longtemps après, par Christiane Taubira, députée de la Guyane.
Nous sommes là pour dire que la traite et l'esclavage furent et sont un crime contre l'humanité.
Extrait du discours à l'Assemblée nationale de Christiane Taubira.
Nous sommes là pour dire que si l'Afrique s'enlise dans le non-développement, c'est aussi parce que des générations de ses fils et de ses filles lui ont été arrachées.
18 février 1999.
Que si la Martinique et la Guadeloupe sont dépendantes de l'économie du sucre, si la Guyane a tant de difficultés à maîtriser ses richesses naturelles, si la Réunion est tellement forcée de commercer si loin de ses voisins, c'est directement le résultat de l'exclusif colonial. Et si la répartition des terres est aussi inéquitable, c'est la conséquence reproduite du régime d'habitation.
Et ça va aboutir, puisque le 10 mai 2001 sera voté en lecture définitive, à l'unanimité, une loi française qui reconnaît que la traite et l'esclavage sont un crime contre l'humanité. Ça, c'est l'article 1. Mais l'article 2 va réparer quelque chose de très important. Cette histoire devra désormais être enseignée dans les programmes scolaires. La recherche devra être encouragée. Un comité national sera mis en place. Une journée nationale de commémoration, et le président de la République devra choisir la date, sera également instituée, etc., etc., etc. C'est un tournant. Moi, mon expérience nantaise m'avait convaincu que la manière de faire, la manière de parler, qu'il ne s'agit pas de battre sa coupe, qu'il ne s'agit pas de culpabiliser autrui, mais qu'il s'agit de construire quelque chose de commun basé sur la vérité historique et la sensibilité aussi de la connaissance, donc le travail de mémoire, et de voir comment on peut construire une société pour l'avenir qui soit plus solide et plus solidaire et plus fraternelle. c'est quelque chose d'essentiel, parce qu'en fait, l'enjeu, c'est quoi ? C'est de bâtir une France qui soit sincère par rapport à ses idéaux.
Il y a un moment où, à travers les lectures, les choses deviennent charnelles.
Extrait de À voix nue.
C'est-à-dire que ça ne sont plus des concepts.
Sur France Culture.
Ce ne sont plus des traces.
Avec Christiane Taubira.
Ce ne sont plus des lignes.
Le 26 septembre 2014.
Ce sont des bateaux avec des gens qui embarquent, avec des fusils, avec des barres de fer, avec ce qu'on appelle la pacotille. Bon. Qui traversent, ça prend des jours, ça prend des semaines, qui arrivent en Afrique. En Afrique, c'est un continent, il y a des gens qui vivent. On capture à l'intérieur, dans les villages, on met le feu. On attrape des hommes, des femmes, des enfants, on les entrave. Et puis ils vont où ? Traversent l'Atlantique ? Ils viennent aux Amériques. Bon, tout ça c'est lointain. Et puis un jour, ça n'est plus lointain. Il y a un jour où c'est le continent où je suis née. Il y a un jour où ça, je me ramasse ça en plein visage. Et puis à force de lire, de lire, de lire, je finis par comprendre que j'étais concernée par cette histoire. C'est une violence inouïe.
J'ai été poursuivi, asservi, enlevé à l'Afrique et livré
pour un sac de sucre.
Le matin au lever, j'accomplis mes corvées et ma vie est rivée
à un sac de sucre.
J'ai été poursuivi, asservi, enlevé à l'Afrique et livré
pour un sac de sucre.
Le matin au lever, j'accomplis mes corvées et ma vie est rivée
à un sac de sucre.
Je pense qu'aujourd'hui, nous étions capables d'entendre la vérité. Quand je dis d'aujourd'hui, les années, là, 2000 et quelques, nous sommes désormais capables de revisiter le lieu de la souffrance sans en ressentir la morsure. C'est une phrase de Philippe Claudel.
Aimé Charles Nicolas, professeur émérite de psychiatrie et d'addictologie, Université des Antilles.
J'ai subi, comme tout le monde, l'oubli, le déni, le silence sur l'esclavage. Et donc, l'esclavage est arrivé très tard, pas seulement dans ma vie, mais dans ma pratique aussi. Bon, c'est quelque chose qui n'était pas dit dans les familles, et dans la mienne non plus. Jamais on a parlé d'esclavage dans ma famille. Donc nous ignorions qu'il y avait cette ascendance d'esclaves, mais ça rendait service à tout le monde. Je veux dire, de ne pas en parler. Les parents ne voulaient pas en parler aux enfants parce qu'ils en avaient honte et qu'ils voulaient surtout passer à autre chose. Et les esclavagistes, eux aussi, ont préféré le silence. Et d'ailleurs, le gouverneur a en quelque sorte imposé aussi le silence.
Citoyen de la Martinique, la grande mesure de l'émancipation que je viens de décréter a détruit les distinctions qui ont existé jusqu'à ce jour entre les diverses parties de la population. Il n'y a plus parmi nous de libres ni d'esclaves. La Martinique ne porte aujourd'hui que des citoyens. Je recommande à chacun l'oubli du passé.
Le général de brigade Claude Rostolland, gouverneur provisoire, Saint-Pierre, le 23 mai 1848.
Ça, c'était le discours officiel qui étayait, en fait, l'oubli. Ils ont organisé l'oubli, ce qui fait que quand j'étais enfant, c'est quelque chose dont je n'ai pas entendu parler.
Anaïs Gernindos.
On ne parlait pas d'esclavage.
Guide conférencière.
En Martinique, il y avait autre chose également. Il y avait cette horreur du noir. La couleur de peau noire, c'était quelque chose de rédhibitoire. Et je me souviens les mimiques des personnes quand elles voyaient une personne foncée de peau. Et l'idée, c'était qu'il fallait sauver sa peau.
Pas voleur ! Pas voleur ! Pas voleur ! Vous avez vu le voleur, le chien ? Il n'y a vraiment pas moyen avec ces gens-là. Ah, vraiment, hein ? Je déteste cette race.
Il ne faut pas parler comme ça.
Quoi ? Je te dis que je déteste cette race-là. Comment veux-tu que je sois fière de ma couleur ? Lorsque je vois ces gens-là faire des cas tous les jours, tout ça me dégoûte.
Extrait du film Rue Cazenègre, réalisé par Ozane Palsy.
Cela me fait tellement mal de voir que quelqu'un qui est déjà noir fasse encore quelque chose de mal.
1983.
Même petit rien que sous le coup, je jetterai ma race au feu.
Si je comprends bien, vous n'épouseriez qu'un blanc alors.
Comme ça, au moins, mes enfants auraient la peau sauvée.
Il y avait une hiérarchie de la couleur. Existe-t-elle encore aujourd'hui ? Je ne sais pas. Mais quand j'étais enfant, elle existait très fort.
Toi, tu étais classée comment, du coup, dans cette hiérarchie?
J'étais une chabine. Je détestais qu'on m'appelle comme ça. Une chabine, c'est la production du croisement d'une chèvre et d'un mouton, je crois. Donc je suis une chabine parce que je suis claire de peau par rapport à celui qui va être capresse. Enfin, il y a toute une dénomination, une graduation pour pouvoir parler des couleurs de peau. Donc moi, j'étais la chabine de service dont les gamins se moquaient à l'école. Et en fait, je me suis rendu compte que quelque part, on nous a, de manière très implicite, appris à nous détester. En fait, je me suis détestée. J'ai détesté qui j'étais. J'ai détesté mes origines, en fait. Et d'ailleurs, les personnes, quand elles étaient très, très noires, les gens se retournaient et me disaient « Ah, regarde-moi ça, regarde-moi ce nègre. Il sait même pas se tenir, ce nègre. » Il y avait cette manière de faire. Où les parents, quand ils nous reprenaient, « Ne te comporte pas comme une négresse. » Il fallait qu'on se comporte comme des filles de famille. Et donc, on avait une éducation tirée au cordeau.
De 99 à peu près 2002-2003.
Nerville Emmanuel Gordien, président du CM98, comité marche du 23 mai 98.
On a fait plus de 650 groupes de parole. Mais quand on dit groupes de parole, il faut imaginer 400-500 personnes qui sont dans une salle, qui discutent. Je prends un exemple. Une fois on arrive, le thème de ce groupe de parole, c'est la couleur comme un maléfice. Et je me souviens à l'époque, mon propre frère, qui demande à parler, j'étais surpris, tiens, il a un truc à dire là-dessus. Il lève la main et puis il dit, voilà, oui, on m'a toujours considéré comme un coureur de jupons, etc. Mais je n'ai jamais sorti avec une femme qui était plus claire de peau que moi. Paf. Il y a une autre dame qui dit, alors moi, voilà, je n'ai jamais fait la vaisselle. On lui dit, mais pourquoi? Mais parce que j'avais deux sœurs qui étaient de notre père, qui étaient plus foncées que moi. Et ma mère disait, interdiction à toi qui es plus claire de faire la vaisselle, ce sont tes deux sœurs qui vont la faire. Ça nous amenait donc dans cette question profonde du préjugé de couleur. Et ce qu'on avait compris au fond, et je crois que c'est le message majeur, eh bien on a oublié une chose essentielle, c'est que ces sociétés ont été toutes fondées dans l'esclavage colonial. Et ça, c'est le point important. Des sociétés nouvelles vont naître dans l'esclavage colonial.
Des sociétés vont naître, des humains vont naître, des parents. C'est du concret, finalement, que vous nous ramenez aux populations originaires des Antilles, parce que on part de statistiques, on part de matricules, on part d'archives, on part de quelque chose de très abstrait. Et là, vous rapportez du concret, en finalement, en choisissant même le mot parent, plutôt que de parler d'esclaves, d'esclavisés, d'esclavagisés. Enfin, il y a plein de mots maintenant qu'on utilise aujourd'hui pour essayer de ramener l'humain derrière. Mais finalement, parler de parents, c'est plus simple.
Alors, en fait, si on emploie tous ces mots, esclaviser, esclavagiser, tout ce qu'on veut, ou personne d'Afrique réduite en esclavage, mais c'est pour en fait essayer de masquer la honte. Dire qu'on est esclave, c'est une honte. Moi, c'est pas une honte pour moi. C'était le statut de mes aïeux. Et j'ai vu leur prix. Donc je connais très précisément leur statut. D'ailleurs, ce qu'on a fait, nous, c'est que l'idée a été très simple dès le départ. Les retrouver tous. Tenter de faire la base de données la plus complète possible de l'identité et de la généalogie des esclaves des colonies françaises. Et l'objet de ça, c'est tout simplement de nous affilier à eux. Ce sont nos parents, aller les chercher, savoir quel est le premier qui a été esclave, qui a donné le nom de famille à toute la famille.
Alors, vous marquez votre nom, votre prénom, votre adresse éventuellement, oui, votre numéro de téléphone et l'adresse mail surtout. Qu'on puisse vous recontacter.
Bonjour, je me présente, je m'appelle Muriane. Je viens chez Anchoukage parce que j'ai des recherches par rapport à ma famille. C'est une fratrie qui est très grande. Mon père est originaire de la Martinique. Ils sont au moins 6 frères, mais ils ne s'entendent pas. C'est des relations qui sont compliquées. Donc voilà, du côté de ma mère, pareil, elle est originaire de la Guadeloupe. Et dans sa famille, elle a 3 frères où ils ne se parlent pas. Donc, avec ma sœur, on essaye de remonter notre arbre généalogique et de comprendre pourquoi ces hommes dans cette lignée ont des difficultés relationnelles. Donc voilà, puisque dans notre fratrie, en tout cas, nous, des 5 frères, c'est compliqué.
Et pour l'instant, vous en êtes où, là, dans votre arbre?
Je suis au tout début. Il me manque des dates de naissance, mais c'est beaucoup d'émotions. C'est chargé en émotion. Donc voilà, j'ai voulu venir il y a un mois, j'ai eu une sciatique, donc je n'ai pas pu me déplacer. Donc voilà, alors aujourd'hui si je suis là, c'est un peu, c'est très chargé pour moi.
Vous vous dites que ce côté tendu qu'il peut y avoir chez les hommes de votre famille pourrait être lié à cette période de l'esclavage colonial, clairement?
Oui, pour moi c'est sûr, je pense que voilà, il y a quelque chose qui fait, dans cette lignée, les hommes sont très durs, parce qu'on les a éduqués comme ça. Et ils se positionnent de telle façon et que c'est dur. Donc voilà. Et pour moi, c'est important d'aller voir dans ma lignée, même en tant que femme.
On n'a pas de.
J'ai pas de date, donc je pense pour la prochaine avoir des dates.
Ouais. Ça va être compliqué.
Ça va être compliqué. Donc il me faut absolument ces dates.
Mais il faut préciser le motif. Je suis la petite fille de. Je fais ma.
D'accord. Voilà.
Mais on a des expériences parfois très très difficiles, même pour les personnes qui viennent nous voir.
José Grard, doyenne de l'atelier de généalogie du CM 98.
On a eu cette expérience de quelqu'un, on lui a donné son nom, elle est tombée assise et elle est restée assise toute l'après-midi, elle ne pouvait pas se lever. Cette dame avait fait un déni dans sa tête et quand on lui a dit « mais oui, mais vous avez un esclave », elle est sidérée, elle est tombée, assise par terre. Et elle est restée, assise comme ça, sans bouger. Et on a eu une autre personne à trembler, pareil. Heureusement, il y avait une chaise.
Il y a un accompagnement psychologique, en fait. Il faut quand même faut y aller délicatement.
Et même nous, pour nous, vous savez, de temps en temps, on est là, on est en train de... Et on retrouve la personne. Vraiment, on est émus, on a les... Mais... Pour nous qui sommes les accompagnants, ça nous émeut parce que ces gens, pendant trop longtemps, on les a déniés. On disait ces gens-là. Maintenant, ce sont nos parents. On s'est approprié leur identité et ce sont nos parents. Les gens reviennent parce que justement, ils ont envie de comprendre, ils ont envie de savoir. Il y en a beaucoup qui sont beaucoup, beaucoup plus apaisés en venant nous voir.
L'héritage de l'esclavage, c'est aussi l'héritage du comportement. Le comportement, d'abord, avec une éducation qui est une éducation plus de dressage qu'éducative. C'est vraiment important pour l'enfant, parce que ses parents ne souhaitent pas qu'il soit vendu. C'est quand même un risque, et qu'il soit fouetté. Donc, il fallait qu'il se comporte correctement, qu'il baisse les yeux quand il croise le maître. Et donc, la discipline est de fer dans la famille d'esclaves.
Aimé Charles Nicolas, professeur émérite de psychiatrie et d'addictologie, Université des Antilles.
Et les études psychologiques et psychiatriques qui ont été réalisées aux États-Unis, mais aussi ailleurs, dans la Caraïbe, au Brésil, ont démontré que les familles noires élevaient leurs enfants de manière beaucoup plus sévère que les familles blanches. Et les sévices dits éducatifs persistent encore aujourd'hui dans les familles noires. Donc ça veut dire aussi quand même que il y a les héritages, en quelque sorte, internes, internalisés chez les descendants d'esclaves, mais que le contexte est resté aussi, avec son racisme et ses discriminations, traumatisant. Il existe, le racisme, et il est insidieux. Parce que le traitement par le tribunal n'est pas le même pour le noir que pour le blanc. On y est en plein aujourd'hui. Et si vous avez en tête un certain nombre d'événements qui ont lieu encore aujourd'hui, eh bien, vous ne pouvez pas passer à côté de cet essentialisme et de cette supériorité, ce suprémacisme, cette loi du plus fort, ce droit qui est au service de la force. Je veux dire, et même ce que disent Césaire et ce que dit également Frantz Fanon, c'est que l'esclavagiste a été aussi victime de cette déshumanisation, puisque en agissant comme ils l'ont fait, eh bien, ils se déshumanisaient. Maintenant, ce sur quoi je voudrais insister, c'est que nous en sortons tout de même. Bon, on ne va pas rester à macérer dans la souffrance. Nous en sortons. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de progrès qui ont été réalisés, beaucoup d'avancées, et il y a une vraie émancipation qui a été réalisée, une émancipation en quelque sorte interne, intérieure, qui est celle de ceux qui savent qu'on peut briser le plafond de verre et qui ne sont pas restés au fond de l'échelle sociale comme on était au fond de la cale.
Bonjour, je suis arrivée. Bonjour. Bon bah, je crois que on a rendez-vous ensemble, hein. J'avais rendez-vous avec vous à 15h, désolé, je suis un peu en retard. Bon, moi je suis la plombière de l'histoire et ça m'émeut beaucoup qu'une famille entière comme ça fasse appel à mes services, c'est la première fois. La famille Victoria en plus, pas n'importe quelle famille, hein. Vous avez un ancêtre, Victoria, sacré ancêtre problématique. Bon, moi aussi, hein, j'ai des ancêtres problématiques. J'y connais un rayon en ancêtres problématiques. D'ailleurs, c'est ce qui m'a amenée à devenir plombière de l'histoire.
La plombière de l'histoire que j'incarne naît, advient pendant une discussion que j'ai avec ma grand-mère.
Ariane Chaplet, alias Ari Amo, performeuse, scénographe.
Donc, je raconte que je fais des recherches sur les ancêtres esclavagistes. Elle me dit, mais... Ariane, tu devrais plutôt t'occuper des vivants. Je lui dis, mais c'est exactement ce que je fais. Et elle me dit, non, mais quand même, tu remues la merde. Et je dis, bah ouais, mais en fait, quand ça pue la merde, en fait, on s'en occupe. Hein, on appelle le plombier ou la plombière, justement, pour faire des réparations. Et donc, c'est comme ça qu'est venue l'idée, la nécessité de me dire, je vais me former à la plomberie de l'histoire. Et je vais à Bordeaux en février 2025, et je fais passer une annonce. La plombière de l'histoire est à Bordeaux. Si vous souhaitez la rencontrer, elle consulte. Venez avec un ou une ancêtre avec qui vous avez un rapport de honte ou de conflit ou de silence, et dont l'histoire de cet ancêtre se lie, est reliée à l'histoire collective et reliée à des atrocités, des horreurs du 20e, 19e, 18e, 17e, 16e siècle. Et donc, je propose comme ça des rendez-vous individuels où je me présente aussi, je présente aussi mon histoire et où ensuite je pose des questions à la personne sur son ancêtre. Et je prends ensuite 30 minutes de rédaction pour écrire un texte poétique. Et je lis ce texte, je partage ce texte à la personne et je propose à la personne de manger ce texte, puisque c'est écrit sur du papier azim, pour être à l'endroit de la digestion, de l'absorption et de faire passer le desktop poétique par le corps pour ensuite aller dans les canalisations. Et comme on sait bien, les canalisations individuelles sont reliées aux canalisations collectives.
Je trouve ce portrait accroché sur la cheminée de ma grand-mère. C'est Jacques-François Bégoin de Meaux. Au dos, il y a son arbre généalogique, dont je fais partie, son lieu et sa date de naissance. 29 décembre 1743, à Saint-Domingue. Je trouve le précis sur l'importance des colonies et sur la servitude des Noirs. Signé par Jacques-François Bégoin de Meaux. Je trouve le décret de 1791 qui exclut les colonies de la Constitution française, permettant ainsi le maintien de l'esclavage sur ces terres. Ce décret est soutenu par le député Jacques-François Bégoin de Meaux. Je trouve des dizaines et des dizaines de boîtes d'archives, des centaines de documents avec des listes de noms de navires, avec les années de départ, avec le nombre de captifs, le nombre de captifs au départ, le nombre de captifs à l'arrivée, le prix des captifs.
L'autre spectacle, c'est que tu balances tes ancêtres.
Ouais. Alors, balance tes ancêtres, donc c'est un solo où on suit Harry, on me suit. Et donc, ça mêle à la fois l'histoire personnelle et à la fois l'histoire collective.
Tu me parlais d'un sentiment de honte qui t'avait traversé, mais plus vis-à-vis de toi, de ne pas avoir été curieuse, finalement. Mais la honte, c'est ce qu'on retrouve dans les familles de descendants de négriers, mais aussi de descendants d'esclavisés. Est-ce que tu comprends ce sentiment qui a régné et qui règne encore chez tous ces descendants de ces acteurs de l'esclavage colonial, ce côté, c'était la honte?
Oui, oui, bien sûr. C'est la honte de descendre de ces personnes-là. On n'a pas envie d'avoir des liens avec ces personnes-là. Mais je sais que j'ai eu ce sentiment de honte, mais j'ai essayé aussi de le comprendre pour qu'il puisse être transformé, pour que ça puisse être quelque chose qui soit à l'endroit de l'agissement, en fait, plutôt que de quelque chose qui nous paralyse et qui fait que on se cristallise dans une honte et qui fait qu'on va être silencieux, qu'on ne va rien faire, qu'on ne veut rien bouger. Je dis non, il faut vraiment regarder cette honte, comprendre aussi qu'est-ce qui a été transmis à l'intérieur de la famille, qu'est-ce qui a été construit dans la société. Je ne sais pas si c'est le mot introspection, mais en tous les cas, de mieux se situer. Mais en fait, tout le monde a honte dans cette histoire. Mais il faut absolument faire quelque chose. Enfin, je veux dire, c'est pas possible que ça ne bouge pas alors que tout le monde a honte. Et il faut d'autant plus en parler, créer des liens. Et s'il y a un endroit de honte, c'est qu'il y a quelque chose qui est cristallisé et qui a encore des effets dans le présent. Et que c'est un héritage qu'il faut qu'on regarde, en fait.
Je trouve la rue Bougainville. Je trouve Louis-Antoine de Bougainville, qui donne son nom à une fleur ramenée du Brésil. Je trouve le Bougainville, troisième plus grand porte-conteneur mondial. Il est français. Son armateur, c'est CMA-CGM. 18 000 conteneurs, l'équivalent de 4 terrains de football. Il est inauguré au Havre le 6 octobre 2015. Et le président de la République française, François Hollande, dit. C'est un grand jour pour la France. La France est toujours conquérante. 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 La France est toujours conquérante.
Les sources que vous avez pour travailler sur votre thèse sont composées forcément d'archives, alors archives départementales, archives au niveau des villes, archives personnelles également, archives des familles, des descendants de ces négriers. Comment ça se passe, le travail avec ces familles de descendants? Est-ce qu'elles ouvrent facilement leurs archives?
C'est délicat, c'est compliqué. Alors, le métier d'historien est un métier de patience, et a fortiori lorsqu'il s'agit d'accéder à des papiers, à des documents et à des archives.
Clément Piquet, enseignant-chercheur à l'université Bordeaux-Montaigne.
On est dans un jeu d'équilibriste, c'est-à-dire qu'on doit créer un climat de confiance puisque l'on touche à des documents, lorsqu'ils sont conservés, qui ont une charge patrimoniale d'une part, mais également une charge affective. Même s'ils traduisent une participation dans la traite ou une participation au système esclavagiste, il n'y a pas que ça dans ces documents, souvent. Il y a de la correspondance familiale, il y a de la correspondance privée, des documents intimes. Donc, ces descendants peuvent avoir des craintes à l'idée de ce que l'on va trouver. Des choses qu'ils n'auraient pas conscience, s'ils n'ont pas lu tous ces documents-là, ils peuvent avoir cette crainte-là. Donc, il faut créer un climat de confiance, qui n'est pas toujours facile, hein, dans le contexte actuel aussi, où la science et les sciences humaines peuvent être dénigrées, attaquées, etc. Il faut arriver à susciter ce climat de confiance où on va montrer que les documents vont être analysés pour ce qu'ils sont et pas au regard d'un imaginaire ou d'un point de vue qui serait biaisé par une idéologie quelconque. Alors, En tant qu'historien, il faut aussi dire que ces individus, ces personnes, ces descendants ne sont pas responsables. En revanche, ces descendants, s'ils ont une responsabilité, c'est dans une responsabilité dans la possibilité de donner accès à ces documents. Il faut souligner une chose, c'est que il y a aujourd'hui effectivement un climat mémoriel autour de ces questions qui se développe. Il y a une attente mémorielle, une attente importante et qui est tout à fait légitime et tout à fait nécessaire et à laquelle il faut répondre. Et c'est le rôle des historiens d'éclairer le passé qui, pour les descendants d'esclaves et de personnes ayant été déportées d'Afrique, est un mur en fait, puisque l'absence de sources fait que, à un moment, l'histoire s'arrête. Et pour un bon nombre de ces personnes, l'histoire s'arrête, pour le coup, souvent en 1848. Et le fait de connaître et le fait d'avoir accès à ces sources donne rarement les noms et le permet de faire des filiations, des descendances, mais permet néanmoins de mieux comprendre un système, de mieux comprendre aussi la vie des populations réduites en esclavage ou qui ont été victimes de la traite, et donc mettre des mots, mettre des images face à quelque chose qui était une page blanche, en fait.
Est-ce que vous êtes une exception ou est-ce qu'il y a d'autres étudiants? Est-ce que les nouvelles générations d'historiens s'intéressent à cette question négrière?
Alors, nous sommes relativement peu nombreux donc, à travailler sur la traite en elle-même. Pourquoi ? Parce qu'il y a le sentiment d'un épuisement des archives européennes, que le tour aurait été fait et que finalement il n'y aurait rien à dire de plus et rien à apporter de nouveau sur la traite. Il me semble, il m'apparaît que en changeant de focale, en changeant d'approche, il est possible d'apporter du neuf et justement montrer que ces archives européennes ne sont pas nécessairement si épuisées que cela.
27 mai 2025, commémoration de l'abolition de l'esclavage, cimetière des esclaves de l'Anse-Sainte-Marguerite, Guadeloupe.
Mon père s'appelait Vincent Maximin, ma mère Francilia Marius. Mon arrière-arrière-arrière-grand-père s'appelait Gestel Noï. Eh bien, il n'y a pas longtemps, j'ai fait enchocage.org et j'ai trouvé qui était mon grand-père. Et je sais aussi pourquoi mon père est devenu charpentier, menuisier, ébéniste. Et donc, je comprends maintenant aussi pourquoi j'aime travailler le bois.
Merci, amen, merci. Merci à pas merci, merci pour sa autre fait, pour la partie, l'esprit l'arrêter. Merci.
Qu'est-ce que ça vous a fait de voir sur ces panneaux là? Vous pouvez me décrire un petit peu ces panneaux et ce qu'il y avait inscrit dessus?
Oui, alors ces panneaux pour moi c'est les noms de personnes esclavagisées, en fait, des personnes qui nous ont quittés de façon très violente. Et j'ai vu le nom du frère de mon arrière-grand-père, Amboise Calverus. Et ça m'a fait quelque chose, vraiment. Il y a quelque chose qui tourne dans mes entrailles. Je ne sais pas comment vraiment décrire ça. Mais en même temps, je me dis, bon, ils ont subi beaucoup. Ils ont résisté et ils ont trimé. Et tout ça pour nous qui sommes là. Et nous devons continuer à lutter pour s'assurer que nos enfants et nos petits-enfants aient un avenir plus sûr et plus certain, plus équilibré. Je voyais certaines personnes qui faisaient des témoignages, qui avaient encore des remontées de ce sentiment de ce passé. Ce n'est pas quelque chose qui va partir, on ne peut pas oublier, il ne faut pas oublier. Mais il faut pouvoir avancer aussi et connaître cette histoire est important pour nous permettre d'avancer. Je m'appelle Marie-Annick Gournay, je suis originaire de la Guadeloupe, du Moule, et j'habite en ce moment à Bristol, en Angleterre. Et je travaille à l'université où je suis vice-présidente associée pour justice réparatoire et civique. J'ai découvert plus ma culture à l'université. Ça a pris quand même pas mal de temps. Donc à l'école, on parlait pas beaucoup de nos origines, de notre littérature. Et c'est seulement arrivant à l'université où j'ai étudié des œuvres d'auteurs noirs américains. J'ai lu le livre de Ralph Ellison, The Invisible Man, de l'homme invisible. Et lorsque je lisais ce livre, je reconnaissais beaucoup des sentiments qu'il partageait, en fait. Le sens d'être visible, mais invisible à la fois. Donc visible par sa couleur, mais invisible dans l'environnement, parce que tu peux parler, personne ne t'entend.
Donc j'ai poursuivi, j'ai lu un peu des œuvres francophones également. Donc j'ai fait un peu cette étude comparée des îles et reconnaître qu'en fait, à travers la Caraïbe, nous avons cette histoire partagée. Et je suis allée faire un échange Erasmus. Et de là aussi, j'ai vu les mêmes situations qu'on avait en France, en Angleterre. Et en 89, j'ai emménagé en Angleterre. Et à ce moment-là, on a créé une école avec une amie, une école du samedi. Et là, justement, mon souhait, c'était d'apprendre aux jeunes afrodescendants leur histoire, mais aussi d'autres sujets, les mathématiques, la littérature. J'enseignais le français, mon mari enseignait l'histoire et on a travaillé comme ça. Et ça a toujours été important que les jeunes prennent en compte qui ils étaient et avoir cette force et cette foi, cette compréhension que nos ancêtres n'étaient pas des esclaves. Ils ont été mis en esclavage et c'est de redonner cette connaissance de l'histoire qui est importante. Donc à l'université de Bristol, quand l'université a commencé à parler de son histoire, elle a été poussée à parler de son histoire par les personnes de la ville en fait. Et en 2020, le niveau a vraiment augmenté avec l'assassinat de George Floyd. Et à Bristol, on a aussi déboulé une statue de Colston, un esclavagiste, qui s'est retrouvé dans le port de Bristol. Et dans les cuissons de l'université, il y a les cuissons de la famille de Colston. Donc les étudiants ont demandé à changer ça, les étudiants, tous les étudiants, hein, blancs et noirs, ils voulaient pas avoir d'association avec les esclavagistes. Et ce dont je me suis rendu compte, j'étais la seule personne noire dans le comité pour parler sur renommer les noms des bâtiments qui a un lien avec l'esclavage. Donc pour moi, c'était un choc encore. Et là, j'ai pas eu de mal à convaincre mes amis qu'il était important d'avoir la voix des communautés noires dans cette histoire. Et j'ai organisé une consultation. Je l'ai fait très rapidement en moins d'un mois et je me suis dit, bon, on aura 30 personnes ou quelque chose. On s'est retrouvé à 150 personnes noires, toutes les personnes de la communauté qui étaient là, qui ont montré que c'était important pour eux. Hein. Et la question qu'on a posée, est-ce que l'université doit renommer ses bâtiments? Et selon leur réponse, quelle serait la nouvelle étape à faire? Et les personnes, majoritairement, 99%, il ne faut pas renommer. Et il faut parler de l'histoire parce que ça ne sert à rien de cacher l'histoire. Il faut dire l'histoire, mais surtout, il faut investir dans un travail réparatoire. Et tout ce qu'on fait, c'est important de garder cette notion « nothing about us without us ». Rien sur nous sans nous. Hein? Donc l'histoire est très importante. Il faut travailler la mémoire, mais il faut surtout penser à ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui parmi nos jeunes, cette perte d'identité parmi certains d'entre eux, cet problème psychologique, traumatisme qui est toujours intergénérationnel, qui est toujours là. Pour moi, c'est ce travail qui doit être fait. Et je pense qu'il est très important de reconnaître la mémoire. Parce que souvent, quand je parle du futur, les gens parlent de... oui, mais il faut penser à nos ancêtres. On ne peut pas nous oublier nos ancêtres. Mais il est très important de réparer. Et réparer, penser au problème, à la situation qu'on a actuellement.
Est-ce que toi, personnellement, tu as le sentiment de devoir être réparé? Quand on est descendant d'esclavisés, quand on est descendant aussi d'esclavagistes, parce qu'il y a eu des mélanges, est-ce qu'on a le sentiment, nous, personnellement, de devoir être réparé?
Je pense que être réparé, c'est... on ne sera jamais réparé, parce qu'on a été brisé. Ce qu'on peut faire, c'est reconstituer. Et cette reconstitution passe aussi par la déconstruction de certains systèmes qui sont en place. Et c'est ce sur quoi on doit travailler. Cette déconstitution de choses qui mettent les barrières d'accès à cette équité. Ouais. Je vais te donner un exemple bien simple pour moi sur la Guadeloupe. Hein. Aujourd'hui, on a les eaux que l'on boit. Ce sont des eaux en bouteille. Certaines personnes peuvent se permettre d'acheter de l'eau et d'autres personnes non. Et pourquoi acheter l'eau? C'est parce que la nappe phréatique a été complètement contaminée. Et pourquoi elle a été contaminée? C'est cette histoire de chlordécone. Hein? Chlordécone qui a été autorisé
sur les îles antillaises, hein, la Guadeloupe et la Martinique en 1972, ça a été autorisé alors que c'était interdit en France. Hein, les commissions de toxicité ont décidé qu'il ne fallait pas utiliser ça. Ici, on l'a utilisé, il y a une dérogation spéciale pour l'utiliser. Et cette dérogation, c'est le code noir qui l'a permis. Hein, dans ce code noir qui a un lien avec l'esclavage, est toujours d'actualité aujourd'hui. On a une règle qui est applicable en France, qui est différente de celle appliquée en Guadeloupe ou à la Martinique. Alors pour moi, quand je pense au travail réparatoire qui doit être fait, ça c'est un travail réparatoire qui peut être fait. Et c'est un travail que aussi bien les descendants d'esclavagistes et d'esclavagisés peuvent faire ensemble. Donc il y a des choses comme ça qui sont des héritages, qui sont permanents, qui ont des conséquences sur nous aujourd'hui. Et tant qu'on ne changera pas ce système, ce passé restera présent, toujours, et aura des effets, continuera à avoir des effets sur le présent. Je suis très optimiste. Hein. Pour moi, il faut continuer à travailler et aussi il faut continuer à s'associer avec d'autres pour réussir. Parce qu'en fait, ce travail ne peut pas se passer en isolement. On doit travailler à travers les continents et on doit travailler aussi à travers les races, en fait. Hein. Nous, à l'université, le travail réparatoire que je fais, ça a été poussé par les étudiants. Tous les étudiants voulaient ce changement et tous les professeurs voulaient ce changement. Bien sûr, il y a toujours des personnes qui vont penser à leurs privilèges, qui risquent de perdre une partie de leurs privilèges. Mais pour ceux qui veulent s'allier à la cause, il faut travailler ensemble pour faire ce changement. C'est pour ça que la réconciliation est importante.
Est-ce qu'il nous incombe de réparer un peu le monde? Qu'est-ce qui, au fond, nous empêche? Qui, au fond, nous empêche? Qu'est-ce qui tend nous encombre et qui fait que l'on laisse jusqu'à l'ombre?
C'était Esclavage, héritage d'hier, voix d'aujourd'hui. Une série documentaire d'Aurélie Bambuc, réalisée par David Jacuboviez. Épisode 1, héritier de l'esclavage, avec Evelyne Simon-Gordien, Nerville Emmanuel-Gordien, Jean-Marc Hérault, Aimé Charles Nicolas, Anaïs Gernidos, Ariane Chaplet et Marie-Annick Gournay. Merci aux accompagnants de l'atelier de généalogie du CM98, à Mano Maxima et à l'association mémoriale guadeloupéenne Lamou Bayo. Prise de son, Tahar Bouklifa, Martin Troidec. Mixage, Pierre Henry. Lecture, Nicolas Berger. Archivina, Mylène Touchet. Chargée de programme, Anaï Morales et Marie-Vonne Abolivier. Coordination, Emmanuel Laurentin. À suivre, épisode 2, Bordeaux, un passé à digérer.